Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour ce 11 février 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, la question que je te pose à tous les semaines, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Ouais, donc on publie toujours le balado, là on enregistre le mercredi, on publie le mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi dernier, là après la publication du balado, on a eu vraiment une journée là fortement négative sur les marchés, vraiment là la peur s'est emparée du marché et là soudainement toutes les entreprises de logiciels étaient pour aller à zéro, l'intelligence artificielle va remplacer toutes les Microsoft, les Salesforce et toutes ces entreprises-là comme demain matin. Donc, il y a eu vraiment une correction assez sévère le jeudi. Et là, soudainement, vendredi, pouf, renversement de situation, le Dow monte de 1200 points. On dit dans le langage « buy the dip ». Le marché a dit « ah ben là, ça n'a pas de bon sens cette baisse-là, on achète le rabais ». Et là, on a eu un fort rebond. On se retrouve donc une semaine plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ben le S&P 500 est en hausse de 0,3%, malgré là, que jeudi dernier, c'était vraiment une peur généralisée qui s'est emparée du marché pendant une journée. Le TSX continue de très bien faire en hausse de 2,7%. On a eu partiellement le rebond dans l'or, mais c'est surtout du côté des, par exemple, les titres bancaires là, qui ont continué de très, très bien faire. On a la TD, la BMO qui ont atteint des nouveaux sommets historiques. Donc, ça va très, très fort dans le domaine bancaire au Canada. Et c'est le plus gros secteur de l'indice. Donc, 2,7% de hausse cette semaine. Donc, 4,9% année à jour. On est quand même seulement le 11 février. Là. Donc, si la tendance se maintient, comme disait Bernard de Rome, là, on va finir encore à 40% de rendement quasiment. Là. On s'entend, c'est pas ça qui va arriver, là, mais c'est un très bon début d'année. Du côté du Nasdaq, plus difficile. On a mentionné les compagnies de logiciels. On sent un certain essoufflement des fameux 7 magnifiques. Ce secteur-là performe moins bien. C'est vraiment le reste du marché là, qui prend la relève. Le Nasdaq est en baisse de 0,7% cette semaine, négatif année à jour. Et du côté international, on a eu des élections hâtives au Japon qui ont réélu la première ministre. Le marché a très, très fortement réagi à la hausse là-dessus. Donc, sur la semaine, on est en hausse de 2,1% sur l'indice MSCI. IFI Index, donc Europe, Australie, Asie, et 25% de cet indice-là, c'est le Japon. Donc, une très, très bonne journée, 7,4 années à jour. Autre surprise, les taux d'intérêt, là, on avait des attentes plutôt modestes. On se dit, ah, les taux vont rester à peu près stables au Canada. Eh bien, on a baissé d'à peu près 0,10% sur les taux au Canada et aux États-Unis. Ça a entraîné les indices obligataires à la hausse. On est en hausse de 1% année à jour sur l'indice obligation universelle Canada. Donc là encore, ça va bien. Dollar canadien, là, on s'approche du 74 cents, 73,8 présentement. Donc, quand on transmet l'impact de la devise sur les titres américains, on se rappelle qu'une hausse du dollar canadien, c'est négatif pour les titres américains. Donc, vraiment, là, notre marché continue de très bien faire. Tant mieux pour nous. Donc, en gros, là, il y a plein d'entreprises qui ont atteint des nouveaux sommets. Là, Alimentation Couche-Tard, là, ça fait un bout de temps qu'on n'en parle pas. C'est un titre qui a eu un rendement négatif l'année passée. Mais cette année, le nouveau sommet de 52 semaines qui était atteint hier, le titre a vraiment repris beaucoup de vigueur. Brookfield Infrastructure, Aecon Group, l'indice MSCI dont on a parlé, tous des nouveaux sommets. Donc, ça va très bien en général sur la bourse. Tous les marchés, là, on est à l'intérieur de 1% du sommet historique. Là. On a comme un peu collectivement le feeling que ça va nous péter au visage bientôt, on dirait. Puis, c'est pas ça. Là, il faut arrêter d'essayer d'anticiper la bourse. Il faut juste demeurer investi, discipliné. Puis moi, je constate que, somme toute, peu importe les nouvelles sociopolitiques, la bourse performe bien, puis on demeure très proche des sommets historiques.
Mais toujours bien diversifié, et comme voilà. On dit. Merci beaucoup, Martin. Peut-être tu l'as oublié, j'espère que pas, mais c'est le Saint-Valentin dans quelques jours, aujourd'hui, et on aborde un thème parfaitement de circonstance, les couples et l'argent. Et plus précisément, on a déterminé 5 grands pièges que les couples doivent éviter pour rester sur la même longueur d'onde, financièrement parlant. On ne peut pas régler les autres problèmes. Donc, c'est un moment parfait pour parler de finances de couple, mais aussi, on veut y intégrer une planification financière, successorale. Donc, ça fait vraiment partie du tout. Parce qu'au fond, quand on planifie ensemble, on protège ce qu'on construit.
Exactement.
Donc, aujourd'hui, on ne fait pas qu'énumérer des pièges. On va aussi montrer comment un plan financier et successoral permet d'éviter ces pièges et de renforcer la relation. Donc, deux styles opposés sans plan commun.
Ben, ça, c'est le premier piège. Hein? Donc, si on décide de faire vie commune, ben, ce serait une bonne idée au moins d'être un peu sur la même page. Puis ça, on voit ça souvent, deux styles d'investisseurs complètement différents. Un peut être là, très audacieux, des fois friser la spéculation puis presque le gambling, là, alors que l'autre membre du couple, puis on ne mettra pas de genre sur ces styles-là. Mais,
non, parce que ça dépend. Hein?
Mais tu sais, ça peut créer beaucoup de frustration là, quand un ne gère pas ses finances adéquatement versus l'autre. Donc, c'est important, là, trop d'audace, ça crée le stress pour celui peut-être qui est un petit peu plus prudent.
Puis ça peut aussi être le profil d'investisseur qui est plus audacieux de un et l'autre, le profil qui est juste plus prudent.
Puis hey, c'est correct ça d'être audacieux. C'est quand on frise là, dans la spéculation c'est là où tu sais, il y a une ligne mince entre être audacieux puis être téméraire. C'est pas la même chose. Inversement aussi, être trop prudent, là, si vraiment un des deux là, 100% garanti tout le temps, bon, c'est correct, là, mais c'est important quand même de parler là, puis d'être d'accord sur un profil peut-être commun. Et puis, bon, trop d'aller-retour, on a parlé là, le fameux gap, là, si j'essaie d'anticiper trop les rendements, puis là, je fais des allers-retours entre les profils, là, je m'en vais 100% prudent, 100% audacieux, aller-retour comme ça, on crée le gap dont on a parlé il y a quelques semaines, et puis là, ben, on perd un petit peu de rendement. Fait qu'une planification financière commune, tu sais, quand on fait un plan financier, là, oui, ça se fait individuellement, mais vraiment, là, idéalement, de mettre les deux revenus qui payent quoi, puis on peut tout intégrer ça ensemble, puis planifier et faire des stratégies communes au bénéfice des deux. Et puis la planification financière, on ne veut pas y penser, tout le monde est éternel, mais c'est, la réalité, c'est important quand même de planifier qu'est-ce qui arrive si un décède, qui a quoi, comment on protège le survivant, est-ce qu'il y a une disparité de revenus, est-ce qu'on est correct, là? Le but, c'est de
protéger. Fait, dans le fond, qu'est-ce que le plan vient faire pour un couple? C'est vraiment de donner un langage commun, même si on a des styles différents, même si on gère nos finances différents, on peut se rencontrer dans un espace commun avec notre planification de retraite commune et notre planification successorale commune. Puis je pense qu'il y a des couples qui aiment ça faire un plan séparé parce qu'ils aiment avoir une visibilité sur leur situation individuelle. C'est correct, ouais. Mais on peut en faire deux séparés et un commune. Je pense que ça vaut la peine, ça ouvre
une... C'est le meilleur des deux mondes.
Exactement. L'autre chose que les couples ne font pas, et ça arrive souvent, parce que ben, c'est tabou hein, dans notre société de parler d'argent, il y a des couples qui ne parlent pas d'argent, sauf quand il y a une crise. Donc, c'est fréquent, ça peut être parce que le marché a corrigé qu'on commence à en parler ou parce qu'il y a une crise dans notre vie.
Ben, tu sais, si on attend que ce soit un problème majeur avant d'en parler, ça évite peut-être à l'autre d'aider, puis tu sais, des fois de désamorcer, de voir une autre perspective. Ça peut être, oui, relié au marché, une correction importante sur un portefeuille, un mauvais comportement dans le portefeuille qui fait baisser la valeur. Ça peut être une mauvaise gestion des dettes aussi. Donc, tu sais, avant de gonfler la ballonne trop, là, ce serait important de juste être un petit peu plus transparent l'un envers l'autre. Ça peut certainement aider. Donc, tu sais, on veut éviter les décisions émotionnelles. On veut réagir plutôt. Tu sais, en fait, on veut pas juste réagir à la nouvelle. Là, tu sais, il faut planifier et non juste réagir là, quand le problème surgit. Puis, tu sais, dans un plan financier, on va vraiment, c'est quoi la tolérance réelle du couple, l'horizon, le rôle de chaque dollar, la protection. Donc, quand on vient ficeler tout ça ensemble, ben, tu sais, ça amène un peu de transparence en même temps, là, tu sais, ça permet de voir un peu, d'ouvrir le jeu, puis dire où est-ce qu'on en est, là, d'un point de vue individuel et commun.
Bien, puis ça fait moins de surprises, moins d'émotions, moins de décisions impulsives. Donc, nous, qu'est-ce qu'on recommande? Puis Martin et puis moi, on le fait régulièrement nous-mêmes. On a une période par mois où on discute de nos finances. C'est toujours autour de notre chèque de paye. Donc, on a j'aime dire que Martin, c'est le CFO de notre relation. Donc, lui, il est en charge des finances globalement, mais il me rapporte les résultats comme si moi, j'étais le CEO.
C'est ça.
Donc, on attend pas juste de faire la planification de retraite. Donc ça, c'est bon de le faire de façon temporelle, mais d'avoir cette discussion-là régulière, une fois par mois ou à la fréquence que vous voulez, mais garder vraiment cette porte ouverte pour des discussions, puis des corrections aussi, et ça évite l'émotion là, que ça arrive à ébullition.
Ouais.
L'autre chose qu'on suggère, et ça arrive souvent, surtout au temps des REER, hein, c'est qu'on arrive autour du temps des REER, puis on est là, faut cotiser au REER.
Ouais. Où est-ce que je prends l'argent?
C'est ça, où est-ce que je prends l'argent? Exactement. Donc, l'idée d'automatiser sa vie financière et ouais. pas juste de laisser la vie décider.
Donc, ça, c'est le piège là, de vraiment, si on essaie de juste se laisser flotter dans le vent. Là,
oui.
Là, on se fait toujours surprendre dans la vie. Une chose qui est certaine, c'est qu'on va avoir des surprises. Ben, il faut essayer de prévoir ces surprises-là. Puis une façon de le faire, c'est en automatisant un petit peu le tout. Donc, les cotisations, en automatisant le rééquilibrage du portefeuille, par exemple, en automatisant presque le budget. Là, tu sais, nous, on a un fichier Excel à tous les mois, paf, la paye rentre, on regarde ça dans le fichier Excel, combien qu'il reste. Donc, tout est prévu puis automatisé. Et puis même bon que le suivi annuel, donc d'avoir une période dans l'année où on rencontre son conseiller, faire la révision.
Ça, c'est la partie où on aide nos clients beaucoup. C'est nous qui entreprenons de vous dire, OK, peut-être c'est le temps de se rencontrer puis faire un team ou se rencontrer en personne. Ouais. Donc, on peut vous aider avec cette côté-là. Vous êtes occupé avec votre vie. Ben nous, on automatise la partie.
Toujours dans l'objectif d'éliminer les émotions de la prise de décision. Là, c'est le pire conseiller, c'est les émotions. Donc, ouais. Capable de trouver une façon de retirer les émotions de notre processus décisionnel, probablement que la décision va être meilleure en bout de ligne.
Et puis nous, on entreprend aussi de automatiser le fait de réviser le plan. Donc nous, on a des notes dans notre système pour dire, OK, c'est le temps de réviser le plan. Si vous en avez besoin proactivement, vous nous le dites, mais la planification de retraite, la planification successorale, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire à répétition. C'est littéralement une assurance contre le chaos,
ouais.
En réalité. L'autre piège qui peut arriver, c'est quand le cadre financier entre le couple n'est pas clair. Donc, est-ce qu'on mélange nos affaires? Est-ce qu'on les garde séparées? Est-ce qu'on vient juste de devenir en couple? Puis là, est-ce que c'est le temps de mélanger nos finances?
Donc, mélanger trop tôt ou oui, pas assez.
Exact.
Donc, tu sais, on entend des fois des jeunes couples, là, ça fait 2-3 mois qu'ils sont ensemble, puis là, ils décident d'acheter une maison, tu sais. C'est un risque quand même important, là. On ne dit pas que ça peut pas marcher, là, mais probablement que, tu sais, prendre un appartement, c'est correct aussi. Puis inversement, il y en a que ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, puis c'est complètement le noir total entre les deux. Même ultimement, un des deux décède, puis l'autre, il sait pas que finalement, c'est pas lui qui hérite. Tu sais, ça, c'est peut-être pas assez, là. Ça serait peut-être une bonne idée de communiquer un petit peu plus. Donc, tu sais, il faut distinguer un petit peu l'autonomie. C'est pas parce qu'on partage l'information financière qu'on se rend dépendant de l'autre. Là. C'est une bonne idée de partager quand même l'information financière tout en maintenant notre autonomie financière si c'est ça qu'on veut. Là. Donc, il y a des couples comme nous là, qui mélangent tout. Là. Littéralement, les deux chèques sont... Les deux payes sont déposées dans le même compte. Puis, il y en a, c'est chacun leur affaire. Ça, c'est correct. Là. Y a pas de, on ne fait pas de jugement d'un pour l'autre, mais de partager l'information, ça peut aussi éviter une espèce de frustration où un n'est pas capable de suivre le rythme de l'autre éventuellement. Et ça, ça devient...
On ne veut pas nécessairement le ouais. de l'autre.
Donc, tu sais, d'avoir des projets communs, peut-être les héritages, là, tu sais, qu'est-ce qu'on prévoit faire? Donc, dans beaucoup de couples reconstitués au Québec, donc c'est une bonne idée d'avoir cette conversation-là. C'est pas une conversation le fun, mais elle est essentielle. Donc, ce qu'on veut, c'est préserver l'harmonie familiale, puis la transparence, c'est toujours la meilleure façon d'y arriver.
Vous pouvez nous consulter là-dessus. Si vous êtes dans une nouvelle relation, puis vous vous demandez, mais c'est quoi les discussions qu'on doit avoir? Des fois, nous, on peut vous communiquer aussi des choses qui sont pas le fun, des choses qui sont pas... Vous voulez pas entendre comme, fais attention, t'as reçu un héritage de tes parents, qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là? Est-ce que tu veux le mélanger avec le couple? Donc, on est là pour vous protéger et ensuite, vous pourriez prendre les décisions, mais au moins que vous soyez au courant. Donc réduire les malentendus.
Ouais.
On revient un peu là-dessus. L'autre
piège,
ouais, attendre le bon moment pour investir ou pour planifier. Donc ça, on le voit souvent. Les clients disent, ah, oh, j'ai pas le temps maintenant, je vais attendre dans 6 mois. Finalement, 6 mois arrivent parce que ça, c'est le bon moment parce que je sais combien mon bonus va être, etc.
Ouais. Il y a toujours une bonne raison de repousser à plus tard. On appelle ça de la procrastination. Donc, le meilleur moment pour faire quelque chose, c'est immédiatement. Il faut faire du temps, il faut se prioriser. Il y a les enfants, il y a la vie, il y a le travail, mais en bout de ligne, il faut se prioriser nous-mêmes pour être capable d'aider les autres. Tu sais, dans l'avion, quand on prend l'avion, là, la petite vidéo au début, là, il dit il faut mettre ton masque à toi d'abord avant de mettre celui de ton enfant à côté. Il faut que tu t'aides en premier. Faites donc ça avec vos finances, la même affaire. T'sais, aidez-vous d'abord, puis ensuite, vous allez être un meilleur employé au travail, un meilleur parent à la maison.
Ben, puis pour les plus jeunes, des fois, ils se disent ah non, mais j'ai pas besoin de commencer à planifier la retraite. C'est trop tôt. C'est
tellement loin.
Oui, c'est jamais trop tôt parce que comme ça, vos projets de vie viennent jouer là-dedans et puis on est capable d'ajuster le plan de retraite. Puis être sûr que vous êtes toujours sur le bon chemin.
Au moins, c'est on essaie d'établir une voie vers les projets financiers. Ça peut être une maison, les enfants, ça peut être acheter une résidence secondaire, éventuellement la retraite, la transmission. Puis oui, c'est très, très loin. Puis oui, la réalité, c'est que si on fait un plan aujourd'hui pour planifier les 40, 50 prochaines années, c'est sûr que le plan, en réalité, on va devoir le refaire plein de fois. Mais au moins, on sait dans quelle direction on s'en va. On marche pas complètement les yeux fermés dans le noir. On s'est fait un chemin, puis on essaie de suivre cette direction-là, puis on est là pour vous aider.
Puis depuis que nous, on est ensemble, hein, puis très jeune, puis des fois, je riais parce que tu nous faisais des plans, puis j'étais comme, oh non, Martin, tu sais, ça, c'est dans 30 ans, ça. Mais la réalité... Puis je pense que ça nous a beaucoup aidé. Plutôt, un couple commence à planifier, à investir, à structurer ses protections, plus c'est simple. Fait que nous, on encourage nos jeunes qui sont en couple, nos deux fils, de commencer tout de suite à avoir ces discussions-là. Même de parler de testament.
Ouais.
Le moment qu'on achète un bien en commun, comme une maison, c'est le temps de parler de ce sujet-là.
Puis, tu sais, on a parlé un petit peu d'assurance avec notre fils. Tu sais, il a pas encore d'enfant, il n'a pas nécessairement de besoin immédiat de protection, mais il est jeune et en santé. Donc, d'établir une base de protection pendant qu'on est jeune et en santé, ça coûte moins cher. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'on se prend la totale, là, tu sais, mais juste une petite base au moins si jamais il y a éventuellement des enfants, des dépendants, puis là, sa situation de santé fait qu'il n'est plus assurable, bien, au moins, il y aura déjà eu une base qui pourrait être complétée plus tard au besoin. Fait que ça, c'est le genre de truc, il n'est jamais trop tôt pour discuter. Il faut juste le faire avec
le bon avec moment, mesure. C'est maintenant.
Le bon moment, c'est maintenant.
Alors, je vais récapituler les 5 grands pièges à éviter pour un couple et que la planification successorale ou de retraite permet de neutraliser 2 styles opposés sans plan commun, ne parler d'argent que lors des crises, ne pas automatiser, mélanger les finances trop tôt ou pas assez, attendre le bon moment pour investir ou planifier. Et la Saint-Valentin est le moment idéal pour améliorer tout cela. L'amour, c'est beau, mais l'harmonie financière et successorale, c'est très, très précieux. Si vous souhaitez revoir votre stratégie financière ou successorale ou simplement avoir une conversation pour clarifier vos objectifs, notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, nous sommes là pour vous accompagner. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.